Chapitre 10. La construction européenne, entre élargissement, approfondissement et remise en question. Cours 1. Les années 1990. La naissance de l'Union européenne. Avec le traité de Maastricht signé en 1992, la CEE est remplacée par l'Union européenne qui doit achever son intégration économique et réaliser une union politique. Toutefois, c'est surtout le premier objectif qui est atteint avec l'entrée en vigueur de l'euro en 1999. A. Une intégration économique poussée. Un marché unique. Le programme de l'Acte unique, 1986, porté par le président de la Commission Jacques Delors, est repris dans le traité de Maastricht, signé en février 1992. Après l'union douanière, 1968, la Commission européenne veut lever les derniers obstacles aux échanges au 1er janvier 1993. Il s'agit de supprimer tout contrôle aux frontières et d'harmoniser les normes techniques et les taxes. La réalisation du marché unique est facilitée par des grandes infrastructures comme le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994, et permis par la coopération franco-britannique. Une monnaie unique. L'aboutissement de ce processus d'approfondissement par l'économie est la monnaie unique, prévue par le traité de Maastricht et entrée en vigueur en 1999 sous le nom d'euro. Mais trois pays, Royaume-Uni, Suède, Danemark, refusent d'entrer dans la zone euro, considérant leur monnaie nationale comme un gage de stabilité économique. Des voix contre Maastricht. Certains doutent donc du bien fondé de l'intégration européenne et de la monnaie unique, alors que le chômage augmente et que la mondialisation s'accélère. Les Français ratifient de justesse le traité de Maastricht avec 51% de oui au référendum de septembre 1992. Les Danois le rejettent lors d'un premier référendum en 1992, puis le ratifient en 1993 après avoir négocié des dérogations. B. Un faible poids international. Une diplomatie embryonnaire. Le traité de Maastricht veut faire de l'UE un acteur international en créant une politique étrangère et de sécurité commune, PESC. Mais celle-ci relève seulement de la coopération entre les États, alors que l'UE a une compétence supranationale dans le domaine économique. En matière diplomatique et militaire, les décisions sont prises à l'unanimité et non à la majorité qualifiée. C'est pourquoi l'UE peine à définir une position commune lors des grandes crises internationales, comme la guerre de Bosnie à partir de 1992. Quelle défense européenne ? La sécurité de l'Europe est en fait toujours assurée par l'OTAN. Des États comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas restent très attachés à l'atlantisme, c'est-à-dire à une coopération militaire étroite entre l'Europe occidentale et les États-Unis. Ils ne soutiennent pas les efforts d'autres membres de l'UE, comme la France et l'Allemagne, pour créer une vraie défense européenne. La neutralité des trois nouveaux membres. L'UE connaît un nouvel élargissement quand l'Autriche, la Suède et la Finlande adhèrent en 1995. Ces trois pays sont particulièrement soucieux de protection sociale et d'environnement. Surtout, ils sont très réservés à l'égard d'une politique étrangère ou militaire européenne, invoquant leur neutralité. C. Un approfondissement politique timide. La citoyenneté européenne. Elle est instituée par le traité de Maastricht. Un citoyen européen peut séjourner, travailler et étudier partout dans l'UE, une procédure facilitée par la mise en œuvre de l'espace Schengen en 1995. Il a aussi un droit de pétition au Parlement européen depuis 1992. D'ailleurs, le rôle du Parlement, qui est élu par les citoyens et qui représente leurs intérêts, s'accroît avec l'instauration de la procédure de codécision. Le Parlement décide désormais des lois européennes sur un pied d'égalité avec le Conseil. En 1997, le traité d'Amsterdam étend cette procédure législative à de nouveaux domaines. Il renforce aussi la libre circulation des citoyens par l'élargissement théorique de l'espace Schengen à tous les États membres. Une Europe à la carte ? Chaque État conserve une option de retrait, « opting out », qui lui permet de refuser certaines politiques communes et, par exemple, de ne pas intégrer l'espace Schengen ou la zone euro. Inversement, le traité d'Amsterdam prévoit des coopérations renforcées entre les États membres les plus volontaires. Et s'il élargit le vote à la majorité qualifiée par rapport à Maastricht, les États conservent au Conseil un pouvoir de blocage dans tous les domaines où le vote se fait à l'unanimité, comme la PESC. Cela montre l'inachèvement de la construction européenne. L'échec d'une réforme avant l'élargissement. Après la fin de la guerre froide et la disparition du rideau de fer, le traité d'Amsterdam devait préparer l'élargissement vers l'Est. L'adhésion de nombreux autres États membres entraînait en effet la nécessité d'une réforme des institutions européennes pour qu'elles restent efficaces. Or, le traité d'Amsterdam a largement laissé de côté l'union politique et la défense européenne.